Juste une toute petite réaction. Mathias Guémard envisage deux solutions. On l'externalise encore plus. Ou c'était quoi la seconde solution?
Bah non, c'est qu'on livre les documents préparatoires aux parties.
Voilà. Frédéric Rollin, et donc là, c'est une conception complètement nouvelle de l'instruction, de l'instruction et du rôle des parties dans l'instruction. Mais il y a une autre solution aussi. Et finalement, c'est d'arrimer plus encore le rapporteur public dans la fonction de juger en lui donnant le droit de vote. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, madame, quand vous dites c'est bien qu'il ne participe pas au délibéré, qu'il n'ait pas d'influence. Mais pourquoi? C'est non. Non, et c'est bien un juge qui décide et qui prend position et qui va jusqu'au bout. Et à mon avis, et d'ailleurs ça a été l'aspérité qui a permis la jurisprudence de la Cour européenne, elle disait « Ah mais non, il n'est pas tout à fait juge puisqu'il ne vote pas ». Non, ben votons, faites-le voter le rapporteur public, qu'il soit intégré, qu'il soit véritablement juge. Et on peut même aussi envisager, pour que ce soit encore plus clair, que c'est un juge qui prend la partie, qui prend parole et qu'on voit seulement, on peut même mettre une vitre à l'audience, une fenêtre. Une vitre, c'est-à-dire on a un accès à la justice, mais avec une interaction éventuelle. Mais je considère au contraire qu'il faudrait encore plus l'arrimer à la fonction de juger le rapporteur public.
Sur le premier point, très rapidement, moi j'ai toujours considéré que l'analyse qui avait été faite par la Cour au départ était une analyse qui était erronée, parce que ça n'est pas parce qu'on prend position sur une affaire qu'on devient une partie. On est une partie si on a un intérêt à la solution du litige, soit pour soi-même, soit pour les gens qu'on représente. Mais si toute personne qui prend position sur un litige devient ipso facto une partie, ça a des conséquences assez lourdes. Maintenant, je pense quand même qu'il faut aussi essayer de comprendre pourquoi cette confusion est faite. On a une part de responsabilité dans cette affaire. Bon, l'appellation, ça fait longtemps qu'il aurait fallu s'en débarrasser, on l'a fait, c'est fait. Il y a un point sur lequel je pense qu'il faut encore travailler, c'est l'équilibre de la procédure entre l'office du juge et l'office des parties. Parce que ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que, Axel Barlerin l'a rappelé, la plupart des litiges commencent et finissent en première instance, quelques-uns vont en appel, très peu vont au Conseil d'État. Qu'est-ce qu'ils voient les gens qui viennent à l'audience devant un tribunal administratif? Ils voient que eux viennent, et en face, ils ont une administration qui, dans 90% des cas, n'est pas représentée, à l'exception des collectivités locales qui ont des pratiques qui, en général, ont recours à des avocats, mais l'administration d'État n'est jamais représentée. Donc, pour eux, quelle est la mise en scène d'une audience administrative? Ils voient, eux, des requérants qui vont s'exprimer, et puis quelqu'un qui va leur répondre, qui est le rapporteur public. Là-dessus, je pense qu'il faut... je ne sais pas quelle sera la décision de la Cour, mais c'est un aspect sur lequel il faut travailler, et... il faut aussi comprendre que l'administration doit prendre le tournant de l'oralité, doit comprendre ce qui est devenu l'audience, et que si l'administration est systématiquement absente des audiences, sauf en référé, ça introduit aussi c'est aussi un facteur qui introduit une confusion. Donc, je referme la parenthèse sur ce point-là. Deuxième point qui me paraît très important, le paradoxe de toute cette affaire, c'est que jusqu'à présent, l'analyse de la Cour était, à mon sens, erronée, mais qu'elle a eu des conséquences qui sont plutôt heureuses. Parce que je trouve, pour avoir pratiqué l'ancienne procédure et la nouvelle, je trouve qu'on est arrivé à un point d'équilibre et que la procédure actuelle, elle est, bon an mal an, plutôt meilleure que l'ancienne. Parce que, notamment, ça évacue un certain nombre de frustrations des parties, d'incompréhension. Et le débat est plutôt... Par contre, je pense qu'on est à un point de basculement. C'est-à-dire que cette erreur, elle va pouvoir produire des effets qui vont bien au-delà et qui, à mon sens, vont... peut-être pas automatiquement, mais qui risque fort, si la Cour donc condamne la France en cette affaire, d'entraîner, je pense, la disparition pure et simple du rapporteur public en première instance et en appel, pour des raisons matérielles évidentes. Parce que, on a déjà expliqué ça, mais le rapporteur public, il doit conclure sur un nombre d'affaires qui est très important. S'il ne peut plus disposer du matériau qui consiste en le projet de jugement et la note, il peut difficilement travailler. Certes, il pourra toujours conclure, mais ce sera des conclusions qui seront d'une qualité très faible et qui n'auront un intérêt que très limité. Par ailleurs, la solution qui consisterait à communiquer la note du rapporteur, on a rappelé les objections que ça pose. Ça veut dire qu'il n'y a plus de secret du délibéré. Donc, est-ce qu'on veut bazarder ce principe de façon générale pour la justice française? Je ne le crois pas. Et par ailleurs, ça pose d'autres problèmes, parce que si on la communique, ça veut dire qu'on va répondre. Ça va. Donc, je pense que c'est une procédure qui peut peut-être se concevoir, mais pour un nombre extrêmement limité de litiges. Et peut-être même pas. Donc je pense que là, on est à un point de basculement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a eu des évolutions qui étaient gérables. La preuve, c'est qu'on les a gérées. Par contre, si on retire la possibilité d'avoir la note du rapporteur et le projet de jugement, ça veut aussi dire, je pense, qu'à terme, on exclura la présence à la séance d'instruction, parce que ça n'a pas de sens de dissocier les deux. Donc ça va de soi. La question n'est peut-être pas posée explicitement, mais les deux sont liés. Donc c'est évident. Donc, ça veut dire que, concrètement, les rapporteurs publics ne pourront plus travailler. Voilà. Et un dernier point, qu'est-ce qui se passe si le rapporteur public est supprimé ? En l'état actuel des choses, tout est à refaire, parce que le pire, ce serait quand même qu'on arrive à une procédure, qu'on prenne la procédure actuelle et qu'on se contente d'enlever le rapporteur public. Parce qu'elle n'a pas été conçue pour fonctionner sans rapporteur public. Donc elle est totalement déséquilibrée. Elle est... par exemple, on dit souvent l'oralité va compenser l'absence du rapporteur public. C'est ce qu'on a dit, par exemple, quand on a introduit la dispense dans le contentieux des étrangers. Mais c'est faux, pour la bonne et simple raison que jusqu'à présent, l'administration est très très peu représentée. Donc, si on devait supprimer le rapporteur public, il faut repenser complètement. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais je veux dire, le pire, ce serait de simplement l'enlever et de prendre la procédure actuelle. Parce que là, on aurait une collégialité de pure façade, où en réalité, on aurait trois magistrats, mais avec une collégialité qui n'aurait pas de substance sur le fond, parce qu'il n'y aurait pas de réel débat au sein de la formation de jugement. Un peu comme ça se passe devant certaines juridictions qui n'ont pas ce type d'institution.
Merci. Non, mais je vous en prie. Alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par Johan Maury et Mathias Guyomard, et je me félicite d'entendre les propos de Mathias Guyomard sur l'unité de la juridiction administrative, le fait qu'il n'y ait pas de différence entre le Conseil d'État et les juridictions de premier ressort. Je préciserai quand même qu'il y a une petite différence dans la pratique, notamment sur le temps de la justice, qui me semble n'est pas le même au Conseil d'État et dans les juridictions de premier ressort, malheureusement. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je voulais juste ajouter, je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit, je voulais juste ajouter un point. La question que vous avez posée tout à l'heure me paraît tout à fait intéressante. Je pense que la réelle question n'est pas tant la transmission de la note du rapporteur au parti, mais plutôt la transmission du projet de jugement, car, et sans enfreindre le devoir de réserve qui me lie, je dirais simplement que actuellement la note du rapporteur est un peu en voie de disparition. Elle n'est pas toujours faite, et c'est pas d'ailleurs plus mal. On s'oriente plutôt, et la réforme entreprise par le vice-président du Conseil d'État sur la rédaction des décisions de justice va dans ce sens, à tort ou à raison, on le verra, va dans ce sens, plutôt vers un projet de jugement commenté grâce aux nouvelles technologies et avec des liens hypertextes éventuellement vers des textes, vers de la jurisprudence. Donc, la note du rapporteur, honnêtement, elle n'a aucune existence institutionnelle, il me semble. Et je pense que dans quelques années, on n'en entendra plus parler. Enfin, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais je pense que c'est dans l'air du temps. Donc la vraie question, c'est celle de la transmission, de la communication du projet de jugement aux parties. Et là, on voit tout de suite que c'est pratiquement, enfin c'est inconcevable de transmettre un projet de jugement qui n'a absolument pas fait l'objet qui ne résulte pas du travail du travail de délibéré jusqu'à son terme, mais qui ne serait qu'un acte préparatoire, ou alors eh bien on introduit un quatrième degré de juridiction, c'est-à-dire l'avant-projet, et puis ensuite un deuxième degré de juridiction devant les tribunaux administratifs, et puis ainsi de suite. Mais je pense pas que les restrictions budgétaires actuelle nous permettent d'aller dans ce sens-là. Voilà. Donc ça me paraissait important. Ça me paraît important de le dire. Je voulais juste revenir, sans monopoliser la parole trop longtemps, sur cette notion de temps de justice qui me paraît vraiment la clé de l'avenir de la juridiction administrative. Car non seulement il ne faut pas enlever au rapporteur public les moyens de faire son travail, donc surtout lui laisser le maximum d'éléments dans le dossier. Donc ça me paraît indispensable. Mais je dirais même lui donner plus de moyens de faire son travail. Et comment lui donner plus de moyens ? Eh bien d'abord lui donner plus de temps dans les juridictions de premier ressort, et également lui donner le faire travailler dans une vraie chambre collégiale composée de deux magistrats plus le président, et non pas dans des chambres à trois rapporteurs, ce qui a tendance à s'étendre dans les juridictions administratives, parce que plus on submerge le rapporteur public de dossiers, moins il a la possibilité de faire correctement son travail. Et en ce qui concerne le temps, et là je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur le changement fondamental de l'instauration de la séance d'instruction. En fait, le temps du travail de la collégialité a été réduit ces dernières années, alors que la charge de travail des rapporteurs et du rapporteur public, elle, a augmenté, parce qu'avec la séance d'instruction qui a lieu 3 jours, mais parfois 8 jours avant l'audience, en réalité, le travail collégial s'effectue sur une durée d'une semaine. Une semaine, on a une semaine Le rapporteur public dispose, en gros, dans les juridictions de premier ressort, parce que c'est pas le rapporteur public qui fait le rôle devant les TA et les CA, contrairement aux cours et au Conseil d'État, c'est les rapporteurs qui font leur rôle, et le rapporteur public récupère ce qui est inscrit au rôle, sans avoir le choix des dossiers. Et donc, il a un temps extrêmement limité entre 2 audiences. Je rappelle que la cadence est 15 jours dans les tribunaux administratifs. Et en gros, il a 8 jours pour préparer toutes ses conclusions, en tout cas préparer le sens de ses conclusions, avant la séance d'instruction. Donc, c'est le problème fondamental, il est là. Il faut que le rapporteur public dispose de temps. Il faut qu'il ait un nombre de dossiers qui soit raisonnable pour pouvoir faire son travail correctement. Et il restera le garant, parce qu'il est le garant. Il est surtout pas une partie. Il est le garant de la qualité du travail collégial dans les juridictions. Et le jour où il n'y aura plus de rapporteur public, il n'y aura plus de travail collégial. Parce qu'actuellement, dans les chambres collégiales, dans les TA, les 2 personnes qui connaissent le dossier, c'est le rapporteur et le rapporteur public. Les présidents font ce qu'ils peuvent pour réviser s'ils peuvent avant la séance d'instruction, prendre connaissance des dossiers, mais ils ont une charge de travail qui est très importante et qui malheureusement ne leur permet pas toujours de le faire. Et donc la discussion, elle a lieu essentiellement entre le rapporteur et le rapporteur public. Si on enlève le rapporteur public, eh bien il n'y a plus qu'à mettre des juges uniques dans les juridictions administratives, et ce sera pour la plus grande peine, je pense, des justiciables, parce que tout le monde sait, et d'ailleurs une nouvelle réforme du vice-président qui va sans doute sortir très bientôt sur le partage de compétences entre le juge unique et le juge collégial, viendra démontrer que dans certaines matières, eh bien, on va revenir à plus de collégialité, parce que la qualité de la justice administrative repose sur le travail collégial. C'est vraiment ce qui fait c'est l'élément essentiel de la qualité de notre travail. Et le rapporteur public est le garant de la qualité de ce travail collégial.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Barlerin.
Oui, merci. Bon, comme tout a été dit sur l'intérêt du rapporteur public dans le processus juridictionnel, je m'associe à tout ce qui vient d'être dit. Et je voudrais revenir sur un aspect qui a été évoqué, mais effleuré seulement par Laure Milano tout à l'heure, ce qui est normal puisqu'elle souhaitait seulement introduire le débat. C'est sur l'idée que c'est une question de stratégie contentieuse ou de stratégie de défense, malgré tout. Parce que toute cette affaire part tout de même de l'arrêt Slimane Caïd. Bon. Et dans son rôle de contrôle des garanties qui sont accordées aux justiciables dans l'ensemble des pays qui sont concernés, la Cour, donc en 98 je crois, a estimé que le procès équitable tel qu'on le conçoit ou tel qu'elle le conçoit n'était pas garanti, notamment au regard de l'égalité des armes. Or, si on veut bien reprendre les caractéristiques du procès équitable, bon, accès au juge, juge indépendant, procédure contradictoire, bon, on voit bien que c'est sur cette troisième catégorie qu'a porté le débat. Et ce qu'a dit, dans un premier temps, la jurisprudence Slimane Caïd, c'est ce qui a été rappelé, le statut et le rôle du procureur pose problème. Mais c'est quand même nous, je parle de la France, hein, puisque c'est pas la juridiction administrative, qui en a tiré la conséquence tous les travaux préparatoires des rapporteurs devaient plus du tout ou très peu être communiqués au ministère public. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans ce cadre-là, la Cour a rajouté un élément conceptuel, c'est-à-dire l'égalité des armes. C'est quelque chose auquel nous, on n'avait pas en droit interne l'habitude de faire référence. Et donc, il y aurait une inégalité des armes, puisque quelqu'un, le procureur de la République, mais donc le rapporteur public chez nous, prend la parole
Et donc, il faudrait qu'il y ait une égalité entre lui et les partis. Je ne crois pas du tout que ce soit comme ça qu'il faut raisonner. Et je pense que l'erreur qui a été notamment faite ou réitérée, de mon point de vue, hein, par la Cour dans les arrêts flamands et puis je ne sais plus comment il s'appelle le suivant, c'est d'affirmer même implicitement que ce n'était pas grave que le travail du rapporteur soit transmis au rapporteur public, mais sous réserve que ce travail, c'était rien du tout. C'est-à-dire que c'était juste un rappel des visas, etc., etc. La logique, en tout cas telle que moi je l'aperçois de cette jurisprudence Slimane-Caïd au départ, c'est de dire à partir du moment où quelqu'un, c'est un juge, bon, un magistrat d'influence, s'est exprimé publiquement et sur le dossier, il doit plus pouvoir le faire. On en a tiré les conséquences en interne dans les juridictions administratives, et c'est ce que disait Johan tout à l'heure, le rapporteur public n'est plus au délibéré. Une fois qu'il a pris la parole et qu'il a exposé ses conclusions, il sort du jeu, c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure, et c'est très bien. Moi, il me semble que cet axe de défense qui est de dire le rapporteur public n'est pas une partie, bon, etc., tout a été bien expliqué, de dire il s'est prononcé à l'audience et à partir de là, il doit sortir du jeu, ça permet quand même de considérer que avant de s'exprimer, il n'y a aucune rupture de l'égalité des armes. Moi, de mon point de vue, j'aurais tendance à dire, de façon provocatrice, que le rapporteur public, alors ça, c'est pas provocateur, n'est pas une partie, c'est l'arme elle-même. C'est-à-dire que, du point de vue conceptuel, c'est une arme, entre guillemets, évidemment, qui est mise à la disposition des deux parties au début du procès, c'est-à-dire on leur dit, à un moment, quelqu'un va vous dire comment les choses peuvent être interprétées, quelqu'un qui aura eu accès à la réflexion. Et aucune des vraies parties, parce que ce n'est pas une partie, le rapporteur public, ne peut dire a priori que cette arme ou cet avantage qui est mis à leur disposition va être favorable à l'une des deux, puisque a priori, on ne sait pas ce que va dire le rapporteur public. Une fois qu'on sait, à ce moment-là, on en tire les conséquences qu'on a déjà tirées, c'est-à-dire il participe plus au délibéré et à la suite de la procédure. Moi, j'ai aucun problème avec ça, et c'est vrai, je crois que Anne l'a dit, c'est sans doute mieux maintenant que par rapport à ce qui se passait avant. Et donc, je voudrais dire que cet aspect-là, c'est-à-dire partir, puisqu'après tout, on sait bien tous qui rentrent dans la justice, qu'on a nos propres modes de raisonnement, et que quand un requérant n'intègre pas spontanément la mécanique intellectuelle qu'on a l'habitude de développer, on a moins tendance à faire droit à ses arguments que lorsqu'il emprunte les mêmes chemins que nous. Je crois quand même que dans la défense du gouvernement français, il y a une stratégie de rupture par rapport à la jurisprudence Slimane-Caïd qui est trop importante, et qu'il est possible de repartir de là pour expliquer à la Cour que les règles du procès équitable et notamment l'égalité des armes commandent qu'une fois que le procureur de la République, ou en l'occurrence le rapporteur public s'est exprimé, ils sortent du jeu, mais avant, pas du tout. Et je ne crois pas que ce soit, alors enfin, on verra bien, mais moi il me semble pas que ce soit un pari perdu, que cette stratégie-là soit un pari perdu d'avance. Donc voilà, je voulais le dire aussi, parce que ça me paraît quand même un élément essentiel du débat qui sera présenté à Strasbourg.
Merci beaucoup. Patrice Pinozzi, qui voulait.
Oui, un mot. Alors j'ai perdu mon confrère, donc je parlerai seul pour les justiciables. Alors nous allons pouvoir parler mieux, mais vous êtes nécessairement impartial, puisque vous êtes l'arbitre de ce débat, donc la CEDH vous interdit de parler. Mais moi qui suis libre de parole, et j'aimerais dire quelque chose justement sur l'intérêt des justiciables qui a été évoqué tout à l'heure. Et c'est quand même la finalité de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est de garantir le droit des justiciables. Or, est-ce que oui ou non, le rapporteur public est utile aux justiciables, ou plus précisément, si demain il y avait une condamnation de la France sur le fondement de la requête Emma ou Marc-Antoine, les conséquences qui en seraient nécessairement tirées seraient-elles profitables aux justiciables ? Et ça, je pense que c'est un point qui est un point absolument déterminant. C'est-à-dire que aujourd'hui, le rapporteur public sert évidemment l'ensemble des justiciables qui se présentent devant le juge administratif, quel que soit le niveau du juge administratif, qu'il s'agisse encore une fois des traités A, des CAA ou le Conseil d'État. Il y a, et je le vois d'autant plus encore une fois, que je fais la comparaison avec la Cour de cassation, où à la Cour de cassation, il n'y a pas véritablement d'audience, des débats, puisqu'il n'y a pas de prise de parole, ni par les avocats, ni par les avocats généraux. Et donc, il y a une frustration évidente du requérant qui a fait un pourvoi et qui à qui on annonce une date d'audience et qui ne peut même pas s'y rendre. C'est-à-dire qu'il n'est pas bien venu à la Cour de cassation parce que la procédure est essentiellement écrite et on lui dit, vous savez, c'est une procédure écrite, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas d'audience, etc. Bon, devant la juridiction administrative, il y a cette audience. Et cette audience, elle est fondamentale pour le justiciable parce qu'elle lui permet de comprendre la décision. Donc, il va physiquement avoir un véritable procès avec des gens qui vont prendre la parole et c'est aussi le moment où il se rend compte qu'on a examiné son dossier. Quand on entend les conclusions du rapporteur public, la justice, elle se donne à voir et elle montre qu'il y a eu véritablement un magistrat qui a travaillé sur le dossier, qui a été au bout de son instruction, et en général, les gens en sortent avec un sentiment de ce qu'ils sont tristes parce qu'ils sont susceptibles de perdre ou de gagner, mais au fond, on leur a montré qu'il y avait une œuvre de justice qui était en train de se passer. Et ça, c'est absolument essentiel pour eux, dans l'effet que peut donner la justice pour un justiciable, et c'est essentiel pour nous qui les défendons, je dirais au premier titre, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, parce que ça nous permet, nous, de réintervenir et d'essayer d'enrichir le débat. Bon. Donc ça, je pense qu'on peut tenir pour acquis que l'institution du rapporteur public, eh bien, elle est fondamentale pour le justiciable pour qu'il puisse comprendre la décision qui a vocation à lui être opposée. Demain, si il y a une condamnation de la France, que va-t-il se passer? Alors, on envisage, enfin un peu de droit fiction, on envisage ce qui peut se passer. Il n'y a pas tellement de choix, au fond. C'est-à-dire que, bon, l'idée de dire on va communiquer certains documents, on va communiquer la note ou le projet de jugement, enfin, tout ça est complètement irréaliste parce qu'on voit bien que ce qui pose souci, c'est bien le fait que le rapporteur public ait accès à un quelconque élément, quel qu'il soit, auquel les autres justiciables ne seraient pas susceptibles de, enfin, les autres prétendus partis à la procédure seraient susceptibles de pouvoir avoir accès. Donc, soit ça aboutit à ce qu'on associe complètement le justiciable à l'ensemble de la procédure administrative et donc il est sur le genou du président pendant la séance d'instruction et puis derrière, quand il y a un mail entre les membres, il est en copie, enfin, ce qui est absolument complètement ridicule. On n'est même pas dans une problématique de secret du délibéré.
Il faut qu'il vienne manger avec nous.
Bah, oui, bien sûr. Nécessairement. Donc, à chaque fois, quand la sous-section se réunit, on dit, bah, attendez, il faut envoyer un mail à tous les justiciables du rôle si on commence à évoquer leur dossier. Donc, ça, c'est complètement absurde. Donc, ça ne pourra pas marcher. Donc, après, il y a l'autre solution qui, nécessairement, sera celle qui devra être tirée d'une éventuelle condamnation, c'est dire, bon, ben, on peut plus rien vous dire. Donc, vous travaillez tout seul. Et au fond, c'est la solution qui a été celle de la Cour de cassation, où, effectivement, comme disait Mathias Guillaumard, l'avocat général, il s'est retrouvé tout seul, tout nu, quoi. C'est-à-dire qu'il était désemparé. Il ne pouvait pas travailler. Donc, si on accepte cette idée-là, et c'est ça, moi je suis preneur, en fait, de, parce qu'on est tous trop d'accord autour de cette table, mais moi, je suis preneur, justement, de réaction. Moi, j'aimerais savoir, encore une fois, ou que quelqu'un me dise, ou m'explique, en quoi le fait qu'il puisse y avoir potentiellement une rupture de l'égalité des armes telle qu'elle serait envisagée par la requête devant la Convention européenne, devant la Cour européenne des droits de l'homme, en quoi, si cette requête aboutissait, en quoi ça aboutirait à une meilleure justice, d'une façon générale, et surtout, en quoi le justiciable en tirerait profit? Parce que moi, si j'analyse tout à fait objectivement la situation, je vois juste une énorme fausse bonne idée qui va juste aboutir à ce que le justiciable, il ait prétendument la reconnaissance de certains droits, mais qui en réalité va se retourner directement contre lui, parce qu'il n'aura plus d'informations, parce qu'encore une fois, le rapporteur public à l'audience ne dira plus ce qui sera susceptible de l'intéresser, et on aura une perte de la qualité de la juridiction administrative, et le premier qui va en pâtir, au-delà des problématiques institutionnelles, c'est évidemment le justiciable, parce que c'est lui qui va se trouver privé d'un bon fonctionnement de la justice administrative. Et ça, moi, je trouve ça absolument déterminant, parce que là, on est en train de prétendre rendre justice à l'égard de certaines personnes qui, au fond, à mon sens, seront les premières victimes d'une éventuelle situation de condamnation de la France. Donc, moi, j'appelle l'ensemble de la salle. Si quelqu'un peut me dire en quoi il y aura potentiellement un bénéfice, moi, je suis parfaitement preneur, parce que je ne le vois pas. Voilà.
Beaucoup a été dit, je voudrais juste
du coup, essayer d'être bref. En fait, je crois que ce qui... ce qui ressort, en fait, c'est que... On doit aujourd'hui formaliser ou théoriser le statut du rapporteur public, de manière qui n'est pas encore abouti. Parce que dans l'explication de ce qu'est le rapporteur public, il y a un discours qui est prégnant, c'est de dire le rapporteur public c'est un juge. Le problème de cet argument-là, c'est qu'on peut le prendre à plusieurs niveaux et ça aboutit à des résultats différents. Organiquement, on va expliquer que le rapporteur public devant la juridiction administrative, c'est un juge, et c'est vrai que il n'y a pas de parquet séparé du siège, et donc effectivement, de ce point de vue-là, c'est vrai, mais je crois que la Cour européenne des droits de l'homme s'en moque, donc c'est pas l'argument opérant. Fonctionnellement, effectivement, c'est un juge, puisque, comme l'a dit Mathias Guillaumard, on fait tous le même travail, et ça c'est pour le coup ce que j'aurais vraiment pu moi découvrir en tant que jeune rapporteur, c'est que le rapporteur public, c'est évidemment un collègue, c'est celui qui va pouvoir m'aider si j'ai une difficulté, c'est pas quelqu'un qui est là pour défendre l'une des deux parties en présence, c'est vraiment un juge comme les autres. La difficulté, c'est que juridiquement, c'est pas un juge, puisqu'il vote pas. C'est ce que la Cour a rappelé dans la récresse. Le propre d'un juge, c'est de voter. On ne pourra pas surmonter cette contradiction, sauf à décider effectivement qu'il vote, ce qui ouvrirait des perspectives, parce que s'il faut rétablir l'imparité des juridictions, plutôt que de rajouter un magistrat, on pourrait enlever l'assesseur dont on n'a plus besoin, récupérer le quart des effectifs, et finalement, ça ouvre beaucoup de perspectives. Donc, je crois que ce discours, c'est un juge, il ne faut pas nécessairement l'abandonner, mais il faut l'affiner et préciser que c'est un juge, mais c'est pas un juge exactement comme les autres. Hein. C'est un juge externalisé, c'est le juge qui intervient en bout de chaîne de l'instruction. Pascal Hidou avait dit que les conclusions, c'était une synthèse personnelle de l'instruction. Moi, je trouvais que c'était assez éclairant comme formule. Et il me semble que ce discours, c'est un juge, on l'a développé avec l'arrêt Esclatine, à partir de l'arrêt Esclatine, mais depuis l'arrêt Esclatine, le contexte a considérablement changé, le déroulement de la procédure a considérablement changé, donc je crois que c'est le moment d'en tirer les conséquences en formalisant le statut particulier du rapporteur public. Un juge, oui, mais pas un juge exactement comme les autres. Et dans cette perspective-là, je crois qu'on peut derrière argumenter sur l'intérêt pour le justiciable de la présence d'un juge, pas comme les autres, qui intervient dans certaines conditions.
J'ai une petite remarque par rapport à l'affaire Marc-Antoine, parce qu'il y a un aspect qui n'est pas vu sur la participation délibérée. Il avait soulevé le grief de la participation délibérée, et le gouvernement français a reconnu la violation, a proposé un règlement amiable que le requérant a refusé, mais la Cour a estimé qu'il n'avait pas lieu de poursuivre l'examen de ce grief qui est déjà réglé par l'arrêt Étienne, etc. Et donc il y a déjà une décision Marc-Antoine du 20 avril 2010 déclarant irrecevable ce grief-là. Et donc, en fait, la Cour a très clairement sélectionné les griefs, puisqu'il ne reste plus que... On n'en a pas encore parlé. Est-ce que le 6.1 est applicable à un magistrat administratif? Bon, ça ne semble pas trop poser de difficultés. Et puis, la deuxième question, qui est celle dont on parle, sur la transmission de la note du rapporteur. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'elle n'est pas du tout posée la question, qui est tout de même problématique par rapport au statut des magistrats, du gestionnaire du corps, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais tout ça, c'est à partir du moment où la juridiction administrative est composée de vrais magistrats, vrai, indépendant, etc. Alors on sait qu'il y a des débats au sein des syndicats qui réclament la robe ou pour tout le monde ou pour certains, etc. Bon, il y a énormément de débats là-dessus sur le statut du magistrat administratif, son indépendance, comment il est sélectionné, etc. Comment, toutes ces questions-là sont posées indirectement.
Alors, il nous reste 5 minutes. Je vais laisser la parole, enfin je vais inviter la salle à prendre la parole et je vous laisserai conclure après. Mais donc est-ce que de l'invite à des nouvelles solutions, il y a des suggestions qui ressortent, madame.
C'est pas vraiment une suggestion, mais il y a une question que je me pose, et en fait sur le fait que la note de rapporteur ou le projet de jugement, etc., ne puisse pas être communiqué aux parties, à mon avis, effectivement, de toute façon, le secret du délibéré s'y oppose, mais alors formellement, dans notre droit interne, en tout cas. À mon avis, le droit européen s'y oppose beaucoup moins déjà, puisque les opinions dissidentes apparaissent dans les décisions de la CEDH, donc je crois qu'on n'a pas du tout la même conception. Et d'ailleurs, je crois quand même que c'est plutôt le principe d'impartialité qui fait que le rapporteur public ne peut pas participer au délibéré, enfin, ne peut pas voter, en tout cas, au délibéré qui suit l'audience, et non pas le secret du délibéré en droit européen. Parce que c'est, ben je Oui, ben voilà, oui. Ceci dit, je suis absolument convaincue que le droit, le secret du délibéré ne couvre pas que le moment du vote, mais couvre effectivement toute la fabrication du jugement et tout ce qui est délibéré entre les magistrats qui vont délibérer. Je suis également convaincue que le rapporteur public est un juge pas comme les autres, que cette idée, même si elle a été peut-être mal défendue, mal comprise, doit continuer à être défendue. C'est un juge externalisé qui s'arrête à un certain moment, donc qui participe, il a accès à ce secret du délibéré parce que c'est un juge, parce qu'il fait partie de la formation de jugement. Il va donc accéder à ce secret jusqu'à ce qu'il s'exprime publiquement. Et là, le principe d'impartialité fait qu'il ne peut plus poursuivre avec ses collègues. Enfin, moi, c'est mon opinion. Mais alors, quid du rapporteur public qui donc accède à ce secret qui, à mon avis, est très important en termes d'indépendance du juge, des juges, mais qui conclut pas? Parce que du coup, il est externalisé pour rien faire, finalement. Donc, s'il ne conclut pas, c'est-à-dire s'il se dispense de conclure, est-ce qu'il fait encore partie de la formation de jugement? C'est une question, hein, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il fait encore partie de la formation de jugement? Et du coup, est-ce que le secret du délibéré n'interdirait pas qu'il ait justement accès à tout ce qui se passe en amont, puisque de toute façon, il ne conclut pas? Voilà, c'est une question que je me pose depuis quelques semaines, quelques mois déjà, et à laquelle, pour le moment, je n'ai pas de réponse.
Et pour compléter, c'est problématique pour le requérant, parce qu'il arrive à l'audience et il voit un rapporteur public qui se dispense de conclure. Et on sait grosso modo que s'il y a dispense de conclusion, ça veut dire qu'il y aura rejet.
Ah non, ça par contre, je ne crois pas, vraiment pas. D'ailleurs, en pratique, c'est pas le cas. Mais il se trouve quand même qu'il y a un rapporteur public qui a accédé au débat et qui s'est arrêté avant d'être externalisé, afin de faire quoi que ce soit de son travail juridictionnel. Donc c'est un extérieur à la formation de jugement, à mon sens, qui ne devrait pas avoir accès à ce secret du délibéré.
Juste pour préciser sur ce que vous évoquez, sur l'idée que quand il n'y a pas de conclusion, il y a nécessairement rejet, j'ai évoqué par exemple tout à l'heure le contentieux dans lequel il y a le plus de dispenses déjà, c'est les permis de conduire. En matière de permis de conduire, on ne peut pas dire qu'il y ait systématiquement rejet, donc, alors qu'il y a quasi systématiquement dispense de conclusion. C'est qu'un exemple, hein, mais je veux dire, on ne peut pas systématiser. Donc voilà.
Bien, il nous reste 2 minutes pour avoir tenu magnifiquement le temps qui nous était imparti. Donc je peux peut-être proposer à Laure Minaldo de...
Ah oui, bien entendu. Juste dire... Parce que j'ai entendu beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord, insister sur le fait que l'imbrication dans la collégialité fonctionnelle et dans la collectivité de juges du rapporteur public, c'est la condition de la garantie effective qu'il représente au regard de l'équité du procès. On le désimbrique et la garantie, tôt ou tard, s'effondrera. Voilà. Donc, il concourt par l'imbrication même et sa participation à la collégialité amont, il concourt au respect de l'équité du procès.
Oui, Brigitte Janot, avocat à Nancy. Moi, je voulais un petit peu déplacer le débat. Moi, je pense que ce qui serait vraiment utile, c'est que les parties aient communication des conclusions du rapporteur public avant l'audience. Et moi, je pense qu'il vaut mieux se battre sur ce point. Parce que s'il y a des attaques actuellement au nom du procès, du droit au procès équitable, c'est parce que les parties sont dans une situation défavorable. C'est un problème d'accès à l'information. Or, nous sommes tenus à l'écart des procès, des travaux préparatoires. Or, cela a été dit. Ces travaux préparatoires sont essentiels. Cela a été rapporté à plusieurs reprises. Les conclusions du rapporteur public sont suivies, allez, ça dépend des juridictions, mais à hauteur de 80%, 90%, parfois même plus devant certaines juridictions. Or, donc cela veut bien dire que le rapporteur public fige d'une certaine manière le débat. Et ce qui est très gênant, c'est que les parties découvrent à l'audience ces conclusions. Parce que s'il est vrai que nous avons communication du sens des conclusions 3 jours francs avant, que voulez-vous faire? C'est absolument impossible de répondre utilement, parce que nous ne sommes jamais informés devant les tribunaux administratifs et devant les CA des moyens qui sont retenus. Donc moi, je milite plutôt pour une transmission aux parties des conclusions du rapporteur public et que nous ayons également connaissance des dates de la de cette séance d'instruction, pour que l'on puisse communiquer utilement nos derniers arguments ou nos dernières pièces. Parce qu'on ne sait jamais à quelle date se tient cette séance. Or, on peut communiquer utilement de derniers arguments, mais s'ils arrivent le lendemain de la séance d'instruction, eh bien, cela n'a plus aucune utilité. Donc, nous sommes dans une position défavorable. Et si effectivement la procédure ressemble eh bien, entre le Conseil d'État et les juridictions administratives, il faut tout de même reconnaître que les parties n'ont pas la même proximité avec le Conseil d'État s'agissant des avocats au Conseil d'État, où je pense que l'information circule beaucoup plus. Nous sommes vraiment tenus à l'écart, donc je pense qu'il faudrait mieux militer déjà pour avoir une connaissance de la séance, de la date de la séance d'instruction, et avoir les conclusions intégrales du rapporteur public pour pouvoir y répondre utilement.
Est-ce que une réponse rapide peut-être sur ce point, et puis on passera à la conclusion ensuite pour rester dans notre.
Il n'y a pas un problème de militer ou pas de militer. Enfin, on est aujourd'hui en train de discuter d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. La question de savoir si oui ou non on est susceptible de pouvoir obtenir ou l'ensemble des conclusions ou simplement le sens, c'est une question purement franco-française. Aujourd'hui, il y a le sens des conclusions. Si demain, la juridiction administrative veut communiquer l'ensemble des conclusions, c'est son choix. Je dirais c'est peut-être, mais ce n'est pas ça l'enjeu. Aujourd'hui, la problématique, c'est la survie du rapporteur public telle qu'elle est mise en cause sur la question, qui est la question non pas de la communication du sens, mais de la communication des documents préparatoires. Et c'est évidemment ça le problème aujourd'hui qui est en débat, quoi.
On a bien parlé de la dispense des conclusions, donc ça, c'est pas plus hors sujet que quand on a parlé de la dispense des conclusions.
C'est vrai. Mais c'était sur le terme « militer ».
Ah oui, non, mais c'est effectivement peut-être un terme un peu fort. Je pense qu'il faudrait peut-être aussi se battre sur ce point. Et j'ai bien conscience d'être...
Oui, juste une brève. Je trouve que l'observation que vous avez faite est très intéressante. Et il me semble que ça pose une question qui va, à mon avis, devoir faire l'objet d'une réflexion un peu plus poussée au sein de la juridiction administrative, parce que visiblement, il y a un problème qui est ressenti, et vous n'êtes pas la seule, par un certain nombre d'avocats. Et je crois qu'il va falloir qu'on mène une réflexion sur les conditions d'instruction des dossiers dans la juridiction administrative. Actuellement, l'instruction se fait en interne, et puis, du jour au lendemain, le rapporteur prend une ordonnance qu'on appelle l'ordonnance de clôture d'instruction qui est envoyée aux parties, et puis ils s'aperçoivent que dans 15 jours, ils ont 15 jours en gros, en général 15 jours ou un mois, pour produire leurs dernières observations. Il y a une espèce de panique, j'imagine, qui se crée que ce soit dans les cabinets ou dans les services de l'administration, parce qu'il faut à toute vitesse répliquer, défendre, réagir. Et je crois que la réponse à votre question, elle est moins dans la communication des conclusions du rapporteur public que dans une réflexion sur la façon dont on instruit les dossiers, dont on associe, est-ce qu'il faut modifier cette instruction, est-ce qu'il faut développer ce qui est prévu par le code des audiences qui ont un peu le rôle d'audience, qui pourraient avoir le rôle d'audience de mise en état de façon à ce que les parties soient mises en mesure de produire, de transmettre, de communiquer l'ensemble de leurs arguments. Là, je crois qu'il y a vraiment des progrès à faire, il y a une vraie réflexion à mener et ce serait bien que les avocats y participent. Voilà.
Alors, Mathias Guillemard, dernier mot.
Parce que ce sont des questions qui sont très importantes. Et je partage ce qui vient d'être dit par Mme Kayla. Sur le texte des conclusions, il y a quand même deux obstacles à leur communication préalable qui ne sont pas des obstacles prétextes. Le premier, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de rédaction des conclusions, et la charge de travail des rapporteurs publics fait obstacle à ce qu'on leur impose et ça sera nécessairement plusieurs jours avant l'audience, à la rédaction de ce qu'ils vont prononcer à l'audience. Moi-même, sur à peu près la moitié des conclusions que j'ai prononcées, je n'avais pas de texte. J'ai improvisé à partir de notes ce que j'ai dit à l'audience. Et donc, je sais que dans les tribunaux et les cours, c'est parfois la même chose, et il faut bien comprendre aussi qu'il y aura un obstacle matériel. Mais cet obstacle matériel, allez-vous me dire, on pourrait, en dégageant du temps, en modifiant considérablement la chaîne fonctionnelle, le surmonter. Surgit alors un autre obstacle, et qui, à mon avis, est essentiel. Et celui-là, il est insurmontable compte tenu de la conception que je me fais du métier de rapporteur public. C'est que le prononcé des conclusions, c'est un exercice vivant et dynamique. Et on ne peut pas concevoir qu'on rédige un texte, qu'on communique, parce que ce sera une garantie, et qu'on prononce autre chose que ce texte. Parce qu'à ce moment-là, les justiciables seraient bien fondés à dire « Mais dites donc, vous m'avez donné quelque chose, et puis c'est pas ce que vous avez dit à l'audience. » Le rapporteur public à l'audience, ça n'est pas un speaker ou une speakerine qui lit un prompteur. C'est quelqu'un qui vit... Non, ça n'est pas un speaker ou une speakerine. Ça n'est pas... Des fois, on a l'impression que... Mais ça, ce sont les talents d'orateur qui sont variables. Mais ne déduisons pas de certaines pathologies personnelles ce qu'est l'essence du métier. Vous avez des gens timides qui se réfugient derrière une lecture. Je le respecte. Mais le boulot, c'est pas ça. C'est au moment de l'audience. Parce que là, se cristallise une série de choses essentielles. Je dis que c'est comme en chimie, le moment de la précipitation. On est à la fin de l'instruction et au début du délibéré. Tout se joue là. Il y a une alchimie. Et le rapporteur public, il doit doser, comme un chimiste, ce qu'il va dire à l'audience. Et il ne veut pas le dire de la même manière selon qu'il y aura les parties ou non, selon qu'il sera en accord ou en désaccord, selon éventuellement des éléments qui peuvent avoir dans les derniers moments de la préparation de l'audience surgit. Et vous imaginez bien que autant le sens des conclusions doit être déterminé trois jours avant l'audience, autant l'argumentation, la chair même des conclusions au soutien de ce dispositif, elle est à l'œuvre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est ça l'obstacle essentiel. Moi, j'ai parfois rédigé quand même des conclusions, je vous rassure, pas seulement dans le but qu'elles soient publiées, mais je me suis aperçu, parfois, parce que l'audience, c'est vivant. Vous avez un avocat qui fait une mimique. Et ça, il ne s'en prive pas, heureusement. Eh bien, moi, quand je la captais, cette mimique, combien de fois j'ai improvisé un déroulement complémentaire pour objecter à la mimique, ou convaincre, ou m'expliciter, parce que c'était peut-être simplement pas clair. Vous avez des collègues qui s'endorment. Ça arrive, les audiences sont très longues, il fait chaud, c'est l'après-midi. Moi-même, je lutte parfois contre l'assoupissement maintenant que je suis assesseur. Vous avez des collègues qui s'endorment un peu, qui dodinent de la tête. Eh bien, alors, vous faites un effet de manche un peu rhétorique, vous ramassez les trucs, vous faites une petite blague juste pour recapter leur attention et vous redéroulez derrière. C'est ça le métier. Le métier ne peut pas être simplement de lire un texte qui serait figé. Et donc, je terminerai en disant, il faut, et là je partage absolument ce que dit Mme Kayla, trouver d'autres voies procédurales pour répondre aux besoins légitimes que vous avez exprimés. Et il faut être novateur, il faut être imaginatif, il faut savoir remodeler dans toute la mesure du possible notre régime processuel pour que les objets essentiels qu'il vise soient respectés. Le calendrier de procédure, c'est une chose essentielle. Il est expérimenté dans certaines juridictions. La Cour administrative de Paris, par exemple, a fait un calendrier d'instruction et d'audience, le Calicala, comme il s'appelle, bon, qui est extrêmement positif et qui associe à chaque étape de la procédure les requérants et leurs conseils en leur donnant des clauses de rendez-vous et en leur donnant une visibilité sur le déroulement chronologique de l'affaire. Les audiences d'instruction dont a parlé Camille Broyel, ou pourquoi pas des audiences de mise en état dont vous avez à juste titre dit qu'elles pouvaient constituer des innovations précieuses. Alors il ne faut pas les systématiser parce que c'est toujours pareil, le temps utile n'est pas infini, mais il ne faut pas hésiter dans certaines affaires qui sont très compliquées, très sensibles, à recourir à ces nouveaux outils de procédure. Donc je comprends le souci ou le besoin que vous exprimez. Je crois avoir été assez clair pour dire que ça n'est pas par la communication du texte des conclusions que je crois qu'on devra y répondre, mais ça impose et ça implique nécessairement qu'on fasse preuve d'innovation procédurale pour plus complètement associer à chaque étape du procès administratif le justiciable, tout simplement parce que c'est pour lui que le procès a lieu.
Merci beaucoup. Je pense que après ça, conclusion s'impose.